Valérie, d'avoir accepté la prédication. Et j'aimerais prier pour toi. Seigneur, merci de bénir Valérie en ce moment, particulièrement de lui donner les paroles que tu as mises sur son cœur, qu'elle puisse nous les retransmettre, que nous ayons aussi quelque chose de nouveau à apprendre de toi. Seigneur, tu es tellement merveilleux qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Et ce matin, nous voulons nous attendre à toi. Bénis Valérie, au nom de Jésus. Amen.
Merci pour cette possibilité de méditer ensemble la parole de Dieu. Merci aussi pour ces chants qui ont été choisis, qui nous aident à nous ouvrir à sa présence et à entendre sa parole. En ce deuxième dimanche de l'Avent et pendant toute cette période, on est amené à se souvenir. Se souvenir, on se souvient de la venue, de l'avènement, adventus, hein, de là où vient le mot avant, de l'avènement de Jésus, le Messie. Et se souvenir, dans la pensée hébraïque, c'est quelque chose d'extrêmement dense. C'est pas juste un simple rappel d'un événement passé. Se souvenir, c'est rendre présent, c'est rendre présent cette extraordinaire histoire de l'Emmanuel, c'est-à-dire de Dieu avec nous, de Dieu devenu homme parmi les hommes. Eh bien, c'est rendre cette histoire passée présente, c'est rendre ce passé vivant, agissant dans notre temps, dans notre vie. Cette naissance a eu lieu dans l'histoire. Mais à quoi sert-elle si elle n'a pas lieu dans notre histoire? Et puis l'Avent, c'est encore davantage que ce souvenir du passé. Paradoxalement, c'est aussi ce souvenir du futur. En Christ, le royaume de Dieu, le royaume des cieux s'est approché, mais il n'est pas encore établi. Et nous attendons son avènement. C'est le temps de l'espérance. Et c'est pourquoi souvent, pendant le temps de l'Avent, on lit, entre autres, l'Apocalypse. On lit ce livre, on le médite, on le prie, on espère, et en le faisant, on attend. On attend non pas comme dans une salle d'attente, passivement, mais on attend activement, dans la pensée hébraïque, on se souvient du Christ glorieux et de sa seconde venue. Donc vivre le temps de l'Avent dans cette double perspective, c'est à la fois se souvenir du passé et de l'avenir et du futur. Et entre le passé et l'avenir, il y a le présent. Et c'est dans le temps présent, aujourd'hui, que l'Avent d'hier et l'Avent du futur se rencontre, c'est maintenant. Celui qui était et celui qui vient devient celui qui est. Moïse, quand il a eu la révélation du nom de Dieu, Dieu a dit « Je suis celui qui suis ». Et nous sommes invités aujourd'hui à vivre, à accueillir, à laisser s'incarner en nous le Sauveur du monde. Maître Eckhart dit en une phrase le message essentiel que j'aimerais laisser pour aujourd'hui. À quoi sert que le Christ soit né il y a si longtemps dans une étable s'il ne naît pas aujourd'hui dans ton cœur? À quoi sert que le Christ soit né il y a si longtemps dans une étable s'il ne naît pas aujourd'hui dans ton cœur? Ce matin, je vous propose de nous arrêter sur une figure, un homme vivant le plus grand moment de sa vie. Alors, je ne sais pas pour vous quel a été le plus grand moment de votre vie, Pour lui, pour cet homme, le plus grand moment de sa vie, ça n'a pas été son mariage, la naissance d'un premier enfant, ses réussites professionnelles, académiques et j'en passe. Le plus grand moment de sa vie aussi n'est pas arrivé par hasard. Il l'a longuement espéré, désiré, attendu. Lors du plus grand moment de sa vie, cet homme n'était pas seul. Il était entouré de plusieurs générations, d'un bébé, d'une adolescente et d'une dame plus âgée. Avez-vous une idée de qui vais-je vous parler ? Siméon, oui, Siméon. Je ne pensais pas que vous alliez trouver si tôt. Je me suis rappelé des deux dernières années dans notre communauté et en particulier de deux prédications autour du temps de l'Avent. Une, c'était Marie avec le Magnificat, son chant, et puis l'autre, c'était Jean-Baptiste avec son chant qu'on appelle le Benedictus. Et Siméon aussi, vous savez, a composé un cantique magnifique et pertinent avec l'identité du Sauveur et de sa mission. Il a quelque chose de spécial. Et bien que le texte ne nous dise rien à propos de son âge, il a souvent été qualifié de vieillard, Siméon. Deux raisons ont amené comme ça à penser qu'il était avancé dans ses jours. C'est d'abord l'association avec la prophétesse Anne, dont l'âge et le statut sont précisés, puisqu'on nous dit qu'elle a 84 ans et qu'elle est veuve. Et puis, dans son chant, Siméon, il dit qu'il peut être renvoyé en paix car il a vu le salut. Alors, on y a vu sa mort prochaine, ce qui a fait penser qu'il était rassasié de jour et pouvait envisager sereinement sa fin. Mais ce n'est pas tout à fait sûr et ce n'est pas aussi fondamental, je crois. C'est Jean-Jacques qui a accepté de nous faire la lecture de cet extrait de l'Évangile. Cette histoire qu'on trouve uniquement sous la plume de l'évangéliste Luc, au chapitre 2, les versets 21 à 39. Alors, ça paraît là.
Voilà, donc je vous lis ce magnifique récit de la rencontre des parents de Jésus dans le temple avec les personnes dont nous venons de parler. 8 jours plus tard, c'est-à-dire 8 jours plus tard après les événements de la visite des anges, des bergers.
21, alors je suis trop...
C'est Luc 21.
Voilà, on y est, c'est
voilà.
Bon.
8 jours plus tard, ça veut dire après la visite des bergers dans l'étable de Bethléem. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Puis quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petits pigeons. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère,
Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il est là pour être un signe contesté. Toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth.
Merci. De même que le recensement romain exigeait un voyage à Bethléem, l'observance de la loi nécessitait un déplacement à Jérusalem, et c'est tout naturellement que les parents de Jésus se déplacent. L'histoire débute avec une rencontre imprévue. La présentation de Jésus est l'occasion d'une rencontre. D'ailleurs, il semble que les églises d'Orient appellent cette fête de la présentation de Jésus la rencontre. L'évangéliste souligne deux choses importantes comme deux éléments au premier abord inconciliables ayant permis cette rencontre. D'abord, premier élément, l'Esprit Saint. Luc souligne le rôle de l'Esprit dans cette rencontre. À 3 reprises, on trouve ce couple, Siméon et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pousse Siméon au temple. Et puis, le deuxième élément, c'est la loi. Les parents de Jésus, eux, se rendent au temple poussés par la loi. Comme Zacharie et Élisabeth, ils aiment le Seigneur, lui sont fidèles et ils expriment leur foi par ce geste, ce rite, issu de leur tradition, disons, leur reconnaissance pour l'enfant donné. Et c'est précisément dans ce cadre qu'on peut qualifier d'institutionnel, qu'on peut voir comme légaliste, voire rigide, en plein rite, qu'un événement, qu'un chant nouveau, une prophétie, une joie divine, un shalom, une paix, vont faire irruption. La loi et l'esprit, dont les récits de la nativité selon Luc, se conjuguent pour nous dire qui est Jésus. Pour nous dire qui est ce sauveur, quelle est son identité, quelle est sa vocation, sa mission, pour qui, etc. Il y a là un événement nous montrant que la loi et l'esprit ne sont pas si inconciliables que ça à la manifestation prophétique. Le cadre institutionnel, y compris religieux, avec ses lois, ses rites, son histoire, ses traditions, est aussi un lieu où Dieu se manifeste et agit. Et c'est encourageant, je trouve, pour nous qui sommes à l'œuvre dans différents cadres, dans différentes institutions, de se dire, mais voilà, là où je suis, je rencontre tout un tas de personnes et là Dieu est, là Dieu peut se manifester et agir. C'est génial. Une des caractéristiques de cette rencontre, c'est la joie. On va le voir, pas seulement, mais quand même la joie prend une place importante. C'est une joie qui n'est pas superficielle. C'est une joie qui n'est pas seulement liée à la présence d'un beau bébé, de jeunes parents. C'est une joie bien plus profonde. Et Siméon va exprimer cette joie d'abord par l'accueil. Il est prêt, malgré son âge avancé, à accueillir ses parents est le bébé Jésus. Et ensuite, cette joie va pousser Siméon à composer un chant profondément nouveau dans son message, et j'aimerais le souligner, prophétique, on le verra, inspiré par l'Esprit. Un chant dont le message va oser aller encore plus loin, si on ose le comparer au cantique de Marie et de Zacharie. Il a sa spécificité. Ce cantique que je vais relire s'appelle le Nunc Dimittis. Et encore aujourd'hui, et depuis le 5e siècle, beaucoup de chrétiens le prient, surtout le soir. Alors pourquoi le soir ? Ben simplement parce que ce chant, cette prière dit la joie, dit la reconnaissance pour le don de Dieu, le salut, de même qu'il dit aussi la paix du croyant qui s'abandonne et qui se laisse aller en Dieu. Donc l'idée pour nous, en faisant cette prière au terme de la journée, eh ben, c'est d'une part de reconnaître l'œuvre de Dieu dans l'aujourd'hui de nos vies, c'est dire merci, reconnaître. Et puis de l'autre, ben, c'est s'endormir dans la confiance, en exprimant sa confiance en Dieu. Tout ne dépend pas de nous. Nous n'avons, on le sait, pas prise sur tous les éléments de notre vie, ni celle des autres, etc. Et en reconnaissant en Dieu notre salut, on dit aussi que nous ne sommes pas les sauveurs de nous-mêmes, ni des autres, ni de l'Église, ni du monde, etc., etc. Lui, le Sauveur, est le Seigneur, et c'est ce qu'on dit. On dit, en disant cette prière, accomplira son œuvre, l'œuvre qu'il a commencée et à laquelle il nous fait l'honneur de participer. Donc, avec cette prière courte, toute simple, nous trouvons et retrouvons notre place si facilement quittée. Alors, je vous relis cette prière toute simple, courte. « Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. » Imaginez la scène. L'homme avancé dans ses jours, avec un bébé dans ses bras, peut enfin dire « Maintenant, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. » Maintenant, c'est un tout petit mot tout simple, mais tellement important, qui dit ben, « c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est ici et maintenant. » Et puis le mot « renvoyer », c'est aussi détacher, laisser aller, délier, congédier. Alors bien sûr que ça peut être un euphémisme pour désigner la mort de Siméon, mais ça dit aussi que maintenant Siméon peut se laisser aller en paix. Il n'a plus à attendre. Il est délié de son attente. Il est libéré, il peut s'en aller en paix. Et s'il peut s'en aller en paix, c'est pas comme ça parce qu'il a un sentiment de paix, c'est parce qu'il le dit, car mes yeux ont vu ton salut. Et c'est une phrase extrêmement importante qu'on peut prendre à la lettre, car mes yeux ont vu ton salut. Qu'est-ce que le salut ? Pour la Bible, pour l'évangéliste Luc en particulier, le salut n'est pas une réalité abstraite. Ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible, d'inaccessible. Le salut, c'est quelqu'un, c'est Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Alors si vous voulez savoir qu'est-ce que le salut, relisons les évangiles. Le salut chez Luc est concret, en chair et en os, et il se voit, il agit. Cette joie, dans le début de l'évangile de Luc, s'exprime par le chant et en particulier par la composition de chants nouveaux. vous lisez deux chapitres dans cet évangile et vous avez déjà trois chants. Trois chants avec cette particularité composée par trois générations différentes. Il y a Marie, le premier revient à Marie avec cette jeune femme, son charme, son charisme, son émerveillement. Et puis le deuxième, c'est de l'homme devenu père sur le tard, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui lui aussi a son rôle dans l'histoire du salut. Et le troisième, le Seigneur Siméon, avec sa beauté spécifique. Et le point commun, c'est que tous mettent l'accent sur le salut. Là, je glisse juste une parenthèse. Il y a aussi une magnifique annonce du salut faite au tout début de cet évangile. C'est cette annonce faite au berger par un ange. Il vous est né aujourd'hui aussi, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. C'est l'annonce la plus complète. Ce sauveur, c'est pas n'importe lequel. Ce sauveur, c'est le Christ, en hébreu le Messie, celui qui a été choisi, oint, désigné par Dieu, pour sauver et pour régner. Christ Seigneur. Et Luc, jusqu'à la fin de son œuvre, donc y compris son deuxième tome, les Actes des Apôtres, va poursuivre avec ce thème des saluts, ce thème du salut, jusqu'en 28, où Luc met dans la bouche de l'apôtre Paul, lorsqu'il est à Rome, il dit « C'est aux païens qu'a été envoyé le salut de Dieu ». Je reviens au cantique des trois, Marie, Zacharie et Siméon. Comme Marie et Zacharie, Siméon relie cette réalité nouvelle du salut aux promesses faites à Abraham et à sa descendance. Donc, il reconnaît dans le bébé Jésus le Messie annoncé et attendu par les prophètes vétérotestamentaires. La spécificité de Siméon, c'est qu'à côté de cela, il ose aller plus loin que ses deux prédécesseurs. Il chante que ce salut, d'abord révélé au peuple d'Israël, peuple de Dieu, est préparé pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Jésus sera le serviteur que Dieu a destiné à être la lumière des nations, afin que son salut parvienne jusqu'à l'extrémité de la terre. Ésaïe 49, 6. Donc les païens, nous dit Siméon, ne sont pas seulement les témoins du salut, mais les bénéficiaires du salut définitif, au même titre qu'Israël. Et Jésus, plus tard, et Paul ne diront pas autre chose. Donc là, Siméon anticipe. Et son chant est clairement prophétique. Ni Marie, ni Zacharie, je dirais, n'avaient osé être aussi explicites sur la mission universelle de Jésus. Siméon, l'homme d'âge mûr, a dépassé tout nationalisme. Vous l'avez donc sans doute saisi, la joie de Siméon n'est pas juste la joie liée à la vision d'un jeune couple et d'un bébé. La joie de Siméon, c'est la joie du salut. La joie de Siméon, c'est la joie d'un salut qu'il perçoit accessible à tous du Dieu unique. La joie de Siméon, c'est aussi la joie de la maturité, du mûrissement. Siméon voit la parole de Dieu se réaliser après une longue attente. La joie de Siméon aussi, c'est la joie d'avoir accompli sa mission de veilleur, de sentinelle, on peut dire, de prieur, malgré la nuit longue et redoutable. Siméon voit en l'enfant Jésus la lumière du monde. Et Jésus dira de lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » En préparant ce message, j'ai pensé à un tableau de Rembrandt, en particulier son dernier tableau, peint en même temps que celui du fils prodigue. Siméon glorifiant l'enfant au temple. Ça a été peint vers 1666. Donc, il peint cet extrait de l'Évangile tel qu'il le comprend et l'interprète. Donc, c'est une illustration du texte évangélique en même temps qu'une interprétation. L'interprétation d'un artiste, peintre, donc avec son propre langage, avec sa rhétorique picturale et ses symboles, les métaphores, les allusions, les oppositions. Donc, je ne sais pas si on voit très bien, il ne me semble pas trop, mais enfin, ce qu'on voit en tout cas, c'est les trois âges de la vie, la naissance, la vie active avec Marie, qui est là, qui observe la scène, qui observe ce qui se passe, qui protège son enfant, et puis la dernière étape, Siméon. Et puis si on regarde juste la lumière, on voit le visage du vieil homme illuminé par la lumière qui émane de l'enfant, lumière de révélation. L'auteur, par son art, aussi exprime des émotions. On voit la bouche de Siméon semi-ouverte. Ça fait bien sûr penser que Siméon adresse à l'enfant plus qu'un discours parlé. C'est un chant de louange, de reconnaissance au Seigneur. Et puis la chose sur laquelle je voulais mettre l'accent, c'est la manière dont Siméon porte l'enfant. Je ne sais pas si vous voyez ses mains. Si vous regardez les mains, elles sont séparées comme ça, parallèles, les paumes des mains l'une en face de l'autre. Je ne sais pas si on voit mieux sur cette image. Mais enfin, il tient l'enfant comme ça et puis il est juste posé sur ses avant-bras. Alors, n'importe qui sait que ce n'est pas vraiment la bonne manière. Enfin, moi, si j'avais un enfant, je ne serais pas très contente que quelqu'un le porte comme ça. Je me dis, il va tomber. Mais il semblerait que ce n'est pas une erreur. Rembrandt, au travers de cette posture des avant-bras, des mains, dit quelque chose de sa compréhension de cet extrait de l'Évangile. Pour lui, Rembrandt, il n'a pas pris l'enfant comme ça, tout près de lui, comme pour le serrer contre lui et le garder pour lui tout seul. C'est pas ça. Il accueille et reçoit Jésus et ses parents pour bien sûr le présenter au Seigneur. Mais ce geste, comme ça, c'est le geste de l'offrande. Il présente Jésus, le Sauveur, au monde, comme une offrande pour tous les peuples, juifs et païens. C'est le geste de l'offrande. Et si les yeux de Siméon sont presque clos, c'est comme pour souligner la profondeur des sentiments qu'il habite. C'est vraiment le plus grand moment de la vie de cet homme. Il voit dans l'enfant Jésus le Sauveur offert par Dieu au monde. Voilà pour la petite illustration avec le tableau de Rembrandt. Vous l'avez entendu sans doute quand on a lu l'Évangile, que cette rencontre inattendue entre Joseph, Marie, Siméon et Anne ne se termine pas là. Son caractère bouleversant va encore s'exprimer par un brusque changement de ton. C'est la prophétie adressée, courte, à Marie. Au cantique joyeux succède une prophétie plus sombre, je vous la relis. Siméon les bénit, donc il vient de chanter, il vient de voir dans cet enfant le Sauveur du monde, et il continue. Siméon les bénit et dit à Marie, il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme, ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. Quel contraste saisissant entre le chant et le discours privé adressé à Marie, tous deux inspirés par l'Esprit. D'un côté, la joie, la paix, la lumière, et puis de l'autre, le glaive et la souffrance. L'enfant sera un signe de division et de contradiction et sa mère en souffrira. Je ne sais, c'est pas vous, mais moi, j'aimerais tellement gommer juste cette parole. Je me dis, mais en tant que mère, comment ça a dû être dur d'entendre une prophétie comme ça. Et pourtant, ce serait encore se tromper et s'illusionner tant sur la mission du Sauveur que sur nous-mêmes. Jésus lui-même le dira un peu plus loin dans l'évangile de Luc. « Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. » Luc 12, 51. Ce rejet de Jésus et de sa parole par son peuple va courir comme un fil rouge tout au long de l'évangile et des actes des apôtres. Ce que l'évangéliste nous dit, me semble-t-il, comme au premier destinataire, c'est que Jésus ne s'impose pas. Il ne s'impose pas à l'adhésion des siens. Il se propose, il est un signe, non pas une preuve. Devant l'envoyé de Dieu, le Messie, le Sauveur, devant ses paroles, sa mission, certains le rejetteront et d'autres l'accueilleront. Et cette libre adhésion est toujours d'actualité. Nous aussi, face au crucifié, au ressuscité, face à son message, nous sommes appelés continuellement à répondre, à se positionner, à choisir librement. Car l'amour de Dieu peut tout sauf contraindre à aimer. Et nos choix révèlent, dévoilent forcément les pensées, les débats de nos cœurs. Le bébé que tient Siméon dans ses bras est bien le Messie, mais non un Messie conquérant. Il sera le serviteur souffrant, exposé à l'accueil et au rejet. Et devant une telle division, forcément, sa mère en souffrira. Et vous entendez peut-être en musique de fond le prophète Ésaïe et ses chants du serviteur souffrant. Dans tout ce chapitre, on perçoit l'ancrage de l'évangéliste dans l'Écriture, en particulier du prophète Ésaïe, qu'il médite et réinterprète. Si bien que pendant ce temps de l'Avent, on lira avec profit en parallèle l'évangile de Luc et puis par exemple le chapitre 8 d'Ésaïe, dans lequel a été tiré ces notions de chute, de relèvement, de pierre d'achoppement et de signes, etc., etc. Cette présentation de Jésus au temple ne se termine pas non plus avec cette prophétie. Il y a encore la prophétesse Anne, sur laquelle je ne vais pas longuement méditer. Charles Perrault, un bibliste, écrit quelque chose de joli, je trouve. Il dit « Après la sombre prophétie de Siméon, le personnage d'Anne apparaît comme un sourire. » Anne, c'est la femme seule, vivant sa foi, non pas tant dans l'action, mais la contemplation. Elle a su, elle a pu faire de sa solitude, de sa vieillesse, de son veuvage, non un temps stérile, mort, mais un temps fécond. La prière, le jeûne, le retrait, la solitude est aussi une manière d'attendre la venue du Sauveur dans notre monde. Vivre ce temps de l'Avent d'une manière féconde, en étant éveillés, c'est ce que je souhaite à l'Église aujourd'hui. Et je vais terminer en redisant que l'Avent est un temps trop grand pour en faire qu'un simple rappel d'une vieille histoire passée de Jésus dans une étable entourée du bœuf et de l'âne. Et je reprends la citation de Maître Eckhart. À quoi sert que le Christ soit né il y a si longtemps dans une étable s'il ne naît aujourd'hui dans ton cœur, s'il ne s'incarne en toi? C'est ma prière pour chacun de nous qu'il naisse en toi, en moi, en nous, que le Sauveur, pas seulement personnel, mais du monde, puisse trouver en nos cœurs, en nos visions, en nos actions, dans nos prières, sa place. Une place, pas pour le laisser tout petit bébé, mais pour qu'il grandisse, pour que ce Sauveur se développe dans toute sa grandeur, dans toute son humilité, dans toute sa beauté, dans tout son service et sa simplicité. Jean le Baptiste n'a-t-il pas dit « Il faut qu'il grandisse et que je diminue ». Siméon a dans sa vie laissé une place pour accueillir le Sauveur du monde. Sa joie, ça a été de discerner que le salut est pour tous les peuples. Et dans ce temps de l'Avent, eh bien, les chrétiennes et les chrétiens prient et agissent. Et ce faisant, ils se souviennent non seulement de la nativité, mais aussi de sa prochaine venue, de son avènement. Et dans notre présent, celui qui était est celui qui vient et en même temps celui qui est. L'Avent fait déjà de nous des envoyés de ce royaume qui vient. Et il y a tant de variétés, tant de manières de faire advenir son règne. Pour certains, ce sera accueillir à la maison. Pour d'autres, ça sera faire des visites. Quand je fais des visites, j'aime bien penser à Marie qui portait cet enfant en elle, puis qui allait, par exemple, vers Élisabeth, puis elle portait en elle le Sauveur aux autres. Je trouve que c'est une belle image. D'autres aiment, par exemple, raconter des histoires de la Bible aux enfants ou aux personnes âgées. Dans mon ministère, dernièrement, j'ai une de mes amies qui s'est formée pour raconter des histoires. Elle est venue dans les IMS où je travaille, puis les gens, ils apprécient réentendre ces récits de l'Avent. Donc on peut le faire de façon toute simple. Et puis dimanche passé, par exemple, par Amine, nous avons été encouragés à être artisans de paix. Et c'est sans doute pas dans nos familles, dans nos villes, dans nos villages, nos lieux de travail, notre confession, religion, que le travail manque. Hein? Offrir le monde au Sauveur à l'image de Rembrandt et non le garder pour nous, pour soi, égoïstement. L'offrir, en fait, j'ai envie de dire simplement, humblement, sans condition, comme lui s'est offert, sans s'imposer, mais en s'exposant. Et pour terminer, je vais simplement lire une prière que vous avez trouvée si vous avez reçu le mémo. Et c'est une prière qui a été composée par la théologienne et pasteur Francine Cario, qu'on trouve dans Braise de douceur. Je remercie Marlène qui l'a mis en page. Et puis l'idée, c'est d'avoir ce feuillet pour vous. Je me rappelle de l'idée que je me fais de la communauté de Villars, c'est des personnes très très actives, souvent dans l'ombre, ça ne se voit pas, ça ne vient pas dire devant forcément tout ce qui se vit et ce qui se passe, mais beaucoup de choses qui se font derrière les rideaux, dans les coulisses, des gens qui accueillent, des gens qui font des visites, des gens, il y aura peut-être un... Oui, je me dépêche de finir. Et voilà, Donc, je voulais simplement, si je laisse cette prière, c'est pour que vous puissiez la partager. Et puis peut-être que vous allez écrire un petit mot pour l'avant à quelqu'un, etc. Puis c'était pour avoir des idées. Alors je vais la dire. Et puis si ça vous parle, ben vous pouvez la prendre avec vous. Je l'ai mise juste là-dessus. Christ, lumière du monde, parole profonde, tu es la joie qui relève, la vie qui passe l'ombre, la force du pas suivant. Tu es la racine et la pelle, l'ancre et le large, la terre promise et le voyage. Christ, lumière du monde, parole profonde, dans la paille des jours, dans les failles de l'amour, dans tout ce qui est lourd, sauve en nous la louange qui nous met debout. Christ, lumière du monde, parole profonde, en toi nous recevons la vie, le mouvement, l'être. Tiens-nous à jamais en ta présence où tout prend sens et traverse-nous du souffle où toute détresse devient promesse. Christ, lumière du monde, parole profonde, que ta paix nous inonde. Bon temps de l'avant.